Et on va commencer très très vite, puisque pour cette séance d'ouverture autour du sondage Les Français et l'économie, on a tout juste 50 minutes pour réagir avant l'arrivée de Pierre Moscovici, qui doit prononcer un discours à partir de 10h50. Hein, et on enclenchera tout de suite la grande conférence sur la capacité des économistes à anticiper les ruptures économiques. Donc on commence tout de suite avec ce sondage. Je pense que je présenterai chacun au moment de son intervention, ça nous permettra d'aller un tout petit peu plus vite. Et je donne donc la parole à Patrick Haas, qui est ici à la communication de la Banque de France et qui a été l'instigateur du sondage qui vous est présenté sur les Français et l'économie. Patrick.
Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. C'est un sondage qui s'inscrit désormais dans une tradition bien établie, en fait, de présentation et d'analyse de sondages lors des jours de l'économie. Et donc la Banque de France est un partenaire fidèle de cette nouvelle édition. Et notre participation donc, marque bien notre volonté de contribuer à l'éducation financière du grand public. Mais je passe directement au résultat du sondage. Le sondage, en fait, il est effectué, je vous rassure, dans les règles de l'art, donc méthode des quotas, je ne développe pas plus. Et qu'est-ce que l'on peut retenir, en fait, du sondage sur les Français et l'économie ? Alors, en fait, je distinguerai d'une part quels sont les enseignements dans le domaine économique. Et dans le domaine économique, nous avons des Français qui apparaissent lucides, des Français qui apparaissent critiques vis-à-vis de l'information économique, et des Français qui apparaissent aussi inquiets. D'abord, des Français lucides sur le niveau de connaissance en économie. Alors la question, elle porte non pas sur un niveau d'évaluation objective, mais en fait sur une perception des Français et de l'économie. Et effectivement, donc, quand vous regardez ces résultats, on a à peu près 90%, 91% des Français qui jugent que en fait, le niveau de leurs concitoyens est moyen ou faible. Alors, ce niveau peut être corroboré par un certain nombre d'autres études. Vous avez eu déjà des quiz qui évaluaient en fait la note des Français en économie qui était assez faible. C'était des résultats du CODIS qui donnait une note de 8,3 sur 20, avec un taux moyen de réponse juste qui était de l'ordre de 40%. Et vous avez également des études du CREDOC qui montrent que la culture financière des Français est une culture qui est malheureusement inférieure à la plupart des pays de l'OCDE. Donc est-ce que les Français ont du mal à l'économie ? Mais c'est une question que l'on peut se poser. Mais nous avons également des Français qui sont critiques sur l'information économique. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'information économique est-elle compréhensible ? Alors sur cette question, donc, on a quand même un gros tiers des Français qui trouvent cette information compréhensible et à contrario, une insatisfaction relativement élevée, puisqu'on a 60% des Français qui considèrent que cette information est peu compréhensible. C'est un élément que l'on trouve dans beaucoup de catégories socioprofessionnelles, donc c'est très largement partagé. Il y a sans doute un vrai problème de déficit de compréhension, une attente qui n'est pas satisfaite et donc un constat de manque de lisibilité largement partagé dans l'opinion. Ce résultat est corroboré par d'autres études, notamment de 2008, qui montraient que 2/3 des Français se déclaraient mal informés sur les changements à l'œuvre dans l'économie. Donc là aussi, on a un résultat qui est relativement robuste. Donc des Français majoritairement critiques sur l'information économique. Nous avons également des Français inquiets. Inquiets sur la dette publique. Cette inquiétude, elle est très largement majoritaire. On a 82% qui sont inquiets sur la situation des finances publiques. C'est une préoccupation qui est donc bien rentrée dans les esprits des Français depuis la crise financière. Et elle est légèrement croissante avec l'âge quand on regarde les résultats détaillés du sondage. Inquiets sur la situation des finances publiques, il y a sans doute aussi également une inquiétude sur la situation de leurs finances privées, puisque quand on pose une question sur la situation des foyers face aux factures et aux remboursements de crédit, quand vous totalisez les deux histogrammes du bas, nous avons pratiquement 38% des Français qui ont des difficultés quotidiennes pour faire face à leurs factures, et seuls 24% des Français qui déclarent épargner presque tous les mois. Alors que faire? Une question sur les mesures pour stimuler la croissance. Alors c'est une question intéressante qui a été posée bien avant le rapport Gallois et les débats actuels. Et on a laissé la possibilité de donner deux réponses. Alors très largement, arrive en tête augmenter les petits salaires avec 55%, suivi de stimuler l'innovation, la recherche et baisser les impôts. À noter que augmenter les dépenses publiques est l'option la moins choisie, donc c'est une réponse qui est parfaitement cohérente avec la préoccupation sur les dettes et déficits. Alors dans cette question, donc, on a deux préoccupations et sujets d'actualité qui sont en filigrane, donc la question du pouvoir d'achat et celle de la compétitivité. Et lorsqu'on regarde les résultats détaillés de ce sondage, ces résultats détaillés seront publiés sur le site de la Banque de France et sur le site des Journées de l'économie et de la Sofres. En fait, il y a un certain clivage entre des CSP plus modestes, par exemple 72% des ouvriers vont choisir la hausse des petits salaires, alors que les cadres et les diplômés mettront en avant la stimulation de l'innovation de la recherche. On a également, c'est une préférence partisane marquée, notamment à gauche, pour la hausse des petits salaires et seulement 43% à droite. Voilà l'essentiel des enseignements en termes macroéconomiques. Ensuite, quand on regarde dans le domaine financier, on a plutôt d'assez bonnes surprises dans les résultats et des connaissances assez inégales. D'abord, une assez bonne surprise sur la capacité de calcul des Français. Quand on vous pose le soir, alors que vous êtes fatigué, au téléphone la question, vous avez 1000 euros, un livret d'épargne qui fait 2%, au bout de 2 ans, vous avez combien? Vous n'allez pas répondre 1040,40 €. Donc, en fait, on a un Français sur deux qui a une bonne réponse sur les intérêts composés. En fait, c'est une bonne réponse. Et en fait, quand on regarde les études comparatives, notamment celles de l'OCDE, nous avons un taux de réponse qui est tout à fait satisfaisant. Bravo. Pareil, sur le remboursement d'un prêt immobilier, les Français ont en fait là aussi de très bonnes réponses et connaissent bien les mécanismes de remboursement d'un calcul de prêt immobilier. Là aussi, c'est un résultat tout à fait encourageant. Et enfin, s'agissant du recours au crédit à la consommation, nous avons une réponse tout à fait mesurée et sensée. Et quand on demande que pensez-vous du crédit à la consommation, donc vous avez une réponse qui écrase celle des autres. Le crédit à la consommation est risqué. C'est une réponse qui n'est pas surprenante, notamment dans un contexte de crise financière. La crise financière que nous connaissons est une crise qui était une crise d'endettement. Et il y a eu également des évolutions législatives relatives au crédit à la consommation. Tout ceci explique en fait ces bonnes réponses. Enfin, le niveau d'information sur les produits financiers, il est relativement disparate. Qu'est-ce que l'on observe? Deux tiers des Français s'estiment bien informés sur ce que j'appellerais des produits d'épargne classiques. Et un tiers seulement des Français se déclarent bien informés sur les produits financiers moins courants. Enfin, il y a un léger biais pessimiste sur l'évaluation du niveau de la hausse des prix. J'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc c'est un sondage qui est très riche d'enseignements et qui montre que les Français ont soif de connaissances en économie. Et je laisserai la parole aux autres intervenants.
Merci beaucoup Patrick. On va commencer peut-être avec Gérard Collomb, donc sénateur, maire de Lyon et président du Grand Lyon. On voit quand même que les Français sont dans une situation où personnellement il y a des difficultés. Enfin, 40% des foyers disent qu'ils ont des difficultés pour payer leurs factures. Et en même temps, ils sont aussi un peu inquiets pour l'État, puisqu'il y en a 82% qui se disent que l'État devrait réduire son déficit public. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation où, au niveau global, macroéconomique comme au niveau personnel, on a l'impression que la situation est quand même plus compliquée?
Ah, certes. Et assez impressionné, en fait, par la lucidité qui apparaît à travers de cette enquête. Les Français jugent qu'ils connaissent mal les problèmes économiques, mais ils ont quand même une analyse de la situation qui me semble extrêmement pertinente. Ils voient bien d'abord, évidemment, ils connaissent leurs difficultés personnelles et on voit à travers cette enquête ces difficultés. Pour moi, elle confirme par exemple une enquête que nous venons de faire avec la Chambre de commerce sur la consommation dans la très grande agglomération lyonnaise, une agglomération à 2 500 000 habitants, où on s'aperçoit que la consommation sur les 5 dernières années a augmenté au même niveau que l'augmentation démographique, 10%, alors que dans les années auparavant, elle augmentait du double, 20%. Ça veut dire qu'évidemment, il y a un tassement du pouvoir d'achat. Ensuite, ils savent que l'on ne peut pas compter aujourd'hui sur un accroissement de la dépense publique parce que la dette est déjà extrêmement élevée, 88%. Pour qui le problème de la dette est un problème extrêmement important. Ils savent qu'on ne peut pas continuer comme cela à s'endetter, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, et donc qu'il faut essayer de trouver d'autres solutions. 3% seulement, cher Willy, je m'adresse directement à lui, qui pense que l'on pourrait résoudre les problèmes de croissance par l'augmentation de la dépense publique. C'est quelque chose d'extrêmement important à méditer pour les collectivités territoriales comme pour l'État. Par contre, on voit bien qu'ils sont à la recherche de solutions nouvelles. Moi, je regardais sur les réponses qui sont faites, plus d'un tiers qui se soucie des problèmes d'innovation, de recherche, d'exportation. C'est à mon avis beaucoup plus fort que ce qu'on aurait pu avoir si on avait interrogé les Français il y a 5 ou 10 ans. On aurait été dans des réponses, me semble-t-il, encore trop keynésiennes. Il faut que l'État intervienne directement pour soutenir la consommation. Aujourd'hui, on sait que c'est plus possible et donc eh bien, on cherche d'autres solutions. Et moi, je veux dire que Pascal Lemaire, c'est quelqu'un qui est formidable. La première édition des GECO, il l'avait fait quelques jours après la chute de la banque Lehman Brothers. C'est quand même une certaine intuition. Là, il organise les journées de l'économie à Lyon et Louis Gallois sort un rapport 4 jours avant. Et le Premier ministre prend un certain nombre de mesures. Cher Pascal, quelle influence sur le gouvernement ?
Je maintiens cette interprétation. En tout cas, ce que disait Gérard Collomb, je crois, indique bien que les Français ont conscience qu'il faut faire autrement. Vous avez vu que le thème général de cette année, c'est comment faire autrement. J'espère qu'on va apporter, en tout cas, des pistes pertinentes. C'est vous qui me le direz, puisque c'est vous qui me jugerez aussi dans peu de temps. Et je pense donc que Jean-Louis Yagnère, député et vice-président de la région Rhône-Alpes, peut réagir à cette question, puisque les Français nous disent que pour stimuler la croissance, il faudrait augmenter les petits salaires, stimuler l'innovation, baisser les impôts. Qu'est-ce que vous pensez de ces appréciations des Français sur la solution ?
Ben moi, je suis comme Gérard Collomb, je suis effectivement surpris. En même temps, je crois que les Français sont lucides, et puis c'est rassurant pour tout le monde. Parce qu'en réalité, le comportement des Français, qui sont aussi des acteurs économiques, eh bien, c'est un comportement économique. Quand il y a moins de ressources, eh bien, on baisse les dépenses superflues et il y a une forme de régulation qui s'opère dans les ménages. Et je crois que cette régulation, elle devrait inspirer aussi des institutions un peu plus importantes. Et donc, les Français sont lucides pour dire qu'il faut baisser aussi le déficit public. Je crois qu'on ne peut pas y échapper. On peut effectivement nier la réalité, mais on ne peut pas laisser... Bon, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. On ne peut pas laisser une montagne de dettes dans 20 ans, dans 30 ans, et se dire après nous le déluge. Alors, sur l'augmentation des salaires, je crois que ça correspond à une vraie préoccupation parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Dans notre pays, on y a répondu de manière un peu bizarre et on a joué, on a tiré contre notre camp. Pendant très longtemps, on a joué sur la baisse constante des prix. On a fait du low cost. Il y a des constructeurs français qui ont joué les voitures low cost produites loin de France. Pendant ce temps, dans le pays voisin, l'Allemagne, ils ont fait de la voiture un peu plus solide, un peu plus haut de gamme. Avec des services aux consommateurs qui finalement s'avèrent pertinents. Quand Renault et PSA perdent de l'argent, Volkswagen affiche des résultats insolents. Donc, c'est la même chose avec la grande distribution. On a privilégié la grande distribution plutôt que l'épicerie de quartier et la distribution de quartier. On a laissé faire des grands centres commerciaux à la périphérie des villes. Alors, bon, je sais qu'à Lyon, le maire lutte à juste raison contre ce type d'étalement commercial. Il n'empêche qu'on a laissé faire ça parce que certains imaginaient qu'en faisant baisser les prix, on redonnait du pouvoir d'achat. Le résultat, c'est qu'à force de faire baisser les prix, comme l'industrie française n'était plus capable de répondre, eh bien, on a stimulé les importations et la part de l'industrie est passée de 18% en France à 12,5%. Or, tant qu'on aura besoin de tables, de chaises, de tablettes informatiques, de téléphones, de je ne sais quoi, d'objets dont on a besoin, il faudra les produire et si possible, il vaut mieux les produire par nous-mêmes, ou en tout cas pas trop loin, plutôt que de les faire venir à l'autre bout du monde avec des procédés de fabrication qui ne sont pas toujours très tolérables. Donc, augmenter les petits salaires, bien sûr que c'est une nécessité, parce que le salaire moyen en France, il est de l'ordre de 1 700 euros par mois. Et donc, ça veut dire qu'il y en a qui gagnent plus, mais il y en a beaucoup qui gagnent moins. Beaucoup de temps partiel de plus en plus contraint, et donc c'est normal que dans le sondage, ça réapparaisse. Il faut distinguer quand même la question de l'augmentation des salaires et la question du pouvoir d'achat, puisqu'on est dans un pays où il y a quand même des revenus de transfert qui permettent d'atténuer les effets de disparité salariale. La question de l'innovation et de la recherche, c'est très rassurant de voir que c'est 38%. Je crois que tout le monde a bien compris que l'innovation, les exportations, les investissements, c'était la clé magique pour pouvoir résister d'abord sur le marché intérieur, parce que chaque fois qu'on perd 1% sur le commerce extérieur, sur les exportations, on perd 10 000 emplois. Donc ça veut dire que quand on en regagne 1%, eh bien on gagne 10 000 emplois. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement on vend moins à l'étranger, mais aussi la France est de plus en plus dominée par des produits qui viennent de l'étranger. Et donc la balance commerciale, le déficit a explosé l'année dernière, moins 73 milliards, quand les Allemands affichaient plus de 150 milliards. Donc il faut qu'on s'organise parce qu'on ne peut pas continuer comme ça très longtemps, sinon on aura de vraies difficultés. Alors, la question de la baisse des impôts. Je ne pense pas qu'il y ait des élus qui, par plaisir ou par facilité, augmentent les impôts. On est dans une situation très difficile et bon, Pierre Moscovici le dira sans doute tout à l'heure. La France emprunte 500 millions d'euros chaque jour. Je pense qu'on ne peut plus arrêter, on ne peut plus continuer comme ça. Et qu'il faut retrouver des équilibres. Bon, alors on peut les retrouver en baissant les dépenses publiques. Le fait de supprimer un fonctionnaire sur deux, ça a été constitué une ânerie. J'ai à l'Assemblée nationale le rapport sur la fonction publique. Je peux vous dire que ça n'a généré aucune économie et ça a déstabilisé tous les services publics. Donc, on peut baisser certaines dépenses. Il faudra dire lesquelles, parce que tout le monde est très attaché au système de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de la justice. Et quand on a enlevé ces ministères, il ne reste pas grand-chose à côté. Donc il faut avoir des services publics qui soient plus performants. Il faut effectivement gagner en performance. Il faut rendre un meilleur service auprès du public. Et ça ne se traduit pas forcément en dépenses nouvelles. En même temps, il faut évidemment rééquilibrer les comptes le plus vite possible. Parce que si par malheur les taux d'intérêt augmentaient, 1% de taux d'intérêt, c'est 7 milliards d'euros. Qu'il faudrait trouver en plus. Donc, on a intérêt à vite se rapprocher de l'équilibre, parce que sinon, on ne saurait plus faire. On se retrouvait dans la situation de certains pays. Bon, pas très loin de chez nous, où ça pousse tout le monde à la révolte. Donc, avant d'en arriver là, je crois qu'il faut, suivre finalement le bon sens qui est évoqué dans le sondage.
Merci. Encore que baisser les impôts, peut-être que les Français souffrent peut-être d'un millefeuille fiscal un peu compliqué.
Et que je suis à l'aise. La région ne perçoit plus d'impôts. Donc, les impôts sont très mal calculés puisque il y a les taxes que tout le monde paie, quel que soit son revenu. Bon, la fiscalité est ainsi faite. Bon, il y a des impôts qui sont plus justes. L'impôt sur le revenu est beaucoup plus juste. La CSG est beaucoup plus juste, puisqu'elle taxe aussi des revenus du patrimoine. Bon, c'est clair qu'il y a un bing-bang fiscal à faire dans ce pays, parce que on n'est
pas très enclins à payer des impôts. Dans notre pays, on n'est pas dans les pays nordiques, et pourtant, tous les pays développés, enfin, c'est quand même une conquête de la démocratie. Hein. Et je rappelle que la Révolution française s'est faite sur la question de l'impôt. Hein. Donc, payer des impôts dans un État démocratique, c'est quand même une grande évolution. C'est beaucoup mieux que de payer des taxes qui apparaissent, enfin qui n'apparaissent pas, qui peuvent être indolores. Enfin, elles sont pas indolores, elles sont incolores, mais elles sont pas indolores. Et donc, la multiplication des taxes sur la dernière période, plus d'une quarantaine de taxes sur les boissons gazeuses, etc. Bon, je crois qu'il faut arrêter. Il faut avoir le courage de dire aux Français, voilà, faire fonctionner notre pays, ça coûte tant. Et il faut qu'on mette les ressources en face et que chacun participe à la hauteur de sa capacité contributive. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Bravo. Vous êtes en train de me dire comment faire autrement. On est exactement dans d'autres sujets. Et par contre, les Français ont l'air assez satisfaits du côté, finalement, de leur banque. J'étais étonné quand j'ai regardé le sondage. Les sondés nous disent qu'ils sont bien informés sur les produits d'épargne traditionnels, qu'ils font attention au crédit. Et on a l'impression qu'il y a vraiment un hiatus entre leur vie quotidienne avec leur agence bancaire. Et puis quand on voit les Français qui parlent de la crise financière, là, ils sont beaucoup plus méfiants. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie Peck, présidente du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ?
Alors effectivement, il y a une contradiction qui s'est accrue depuis 4 ans maintenant, c'est que les Français n'aiment pas les banques, mais ils aiment leurs banquiers, ce qui est totalement différent, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'établit, un lien humain très fort qui s'établit entre le conseiller et le client, qui fait que, voilà, et heureusement que c'est comme ça d'une certaine façon, si ça marchait dans l'autre sens, ça serait beaucoup plus inquiétant pour les banques françaises. Moi, pour revenir, avant de reprendre sur les banques, moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, je pense qu'une des vertus, entre guillemets, de cette crise, qui a un démarrage et des origines qui sont extrêmement compliquées, notamment à travers des produits bancaires très complexes, elle a eu le mérite, finalement, de vulgariser pas mal de choses. Et si aujourd'hui, les Français sont conscients de l'endettement public et de l'endettement privé, c'est aussi parce qu'on a beaucoup parlé de ça et que finalement il y a une prise de conscience des grands mécanismes économiques, des grands mécanismes macroéconomiques, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Je pense qu'il va falloir, dans la culture financière et dans la culture économique des Français, probablement progresser sur leur culture microéconomique. Et là, on se rapproche du lien entre les Français et les entreprises, le rôle des entreprises dans la création d'emplois, et resensibiliser et bien réexpliquer ces mécanismes. Si on refocalise sur la banque, effectivement, ce qui est marquant dans ce sondage, c'est que les Français se sentent assez à l'aise, enfin en tout cas les sondés se sentent assez à l'aise avec les produits d'épargne simple, tout ce qui est livret. C'est une grande caractéristique française, hein, tout ce qu'on appelle l'épargne réglementée, c'est-à-dire le livret A, le livret développement durable, le livret d'épargne populaire, c'est vraiment très très français comme particularité. Et là, on voit bien effectivement que ce sont finalement des produits de placement qui ont la particularité pour beaucoup d'entre eux d'être assez liquides, assez faciles à appréhender et qui sont faciles à comprendre. Sur le crédit, ils ont peur du crédit à la consommation. Alors, il faut rappeler là aussi deux, trois éléments factuels. La France est un pays où l'endettement des Français, globalement, est très, très inférieur à ce qu'on peut trouver ailleurs en Europe. Le taux d'endettement, c'est-à-dire quand on calcule l'endettement, enfin le taux de Français endettés et le taux d'endettement des Français est sensiblement plus bas. Donc, il y a bien évidemment du recours au crédit à la consommation qui a été quand même largement régulé au cours des deux dernières années suite aux mesures qui ont été prises par la loi Lagarde. Au demeurant, les Français surendettés, c'est-à-dire les Français fragiles, les ménages fragiles, eux connaissent des situations de surendettement qui sont de plus en plus importantes, qui sont liées bien évidemment à l'évolution du chômage aussi. Et puis il y a quelque chose, vous parliez du pouvoir d'achat tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu une stratégie de low cost généralisée qui a eu tous les effets que vous avez décrits, auxquels je souscris complètement, sauf sur un poste des dépenses des Français qui est l'immobilier. où effectivement l'immobilier est un poste qui a considérablement augmenté, que ce soit sur le prix d'achat des logements ou que ce soit sur les prix à la location. Et si on fait une comparaison avec ce qui se passe en Allemagne, on voit apparaître deux différences majeures qui sont, un, que les Allemands, pendant les 15 dernières années, ont accepté de rogner sur leur pouvoir d'achat de manière absolument considérable, et notamment en acceptant des baisses de salaire au moment de la crise en 2008-2009. Mais que, quand vous regardez l'évolution des prix de l'immobilier en Allemagne sur une base 100 au début des années 90, on doit être à 105. Donc il n'y a pas eu de phénomène, il n'y a pas eu ce phénomène-là. Et mine de rien, dans le pouvoir d'achat des Français, c'est quelque chose qui est important. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où le crédit immobilier est de nouveau relativement peu cher. En revanche, comme les prix ont beaucoup monté, on sent qu'il y a un ajustement et que le nombre de transactions depuis deux ans en fait, est en baisse constante. Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est le rapport des Français aux produits financiers. Et là, on revient sur le rôle du conseiller bancaire. La grosse difficulté, c'est que finalement, les taux d'intérêt étant extrêmement bas, faire des produits financiers qui rapportent de l'argent, au-delà du livret A, qui est quand même le meilleur placement aujourd'hui en termes de rendement après impôt, ça impose de construire des produits qui vont être très risqués. Or, depuis 4 ans, on a une aversion absolument généralisée à tous les produits. Et tant pour le conseiller, finalement, bancaire, que pour le client, comprendre ces produits est extrêmement complexe. Et pourquoi c'est inquiétant ? Simplement parce que, notamment, quand on voit ce qui se passe autour de l'assurance-vie, l'assurance-vie est quand même un produit d'épargne à long terme qui a vocation à devenir un complément de retraite ou, en tout cas, à préparer l'avenir, et que, la désaffection des Français vis-à-vis de ces produits financiers, peu importe, dans l'absolu, c'est un fait, c'est comme ça, mais la conséquence directe, c'est que ça obère, à mon avis, la capacité à pouvoir préparer l'avenir, et que ce taux d'épargne des Français, qui est historiquement très élevé, on est autour de 17%, ça fait vraiment partie des... Enfin, on est vraiment dans des périodes de temps où, historiquement très élevées, cette épargne, elle ne va pas sur des placements à long terme de préparation de l'avenir, mais elle se place plutôt dans des placements de court terme qui, un, sont plus rémunérateurs. Aujourd'hui, alors on ne connaît pas les taux de rémunération des contrats d'assurance vie pour l'exercice 2012, bien évidemment, mais aujourd'hui, on sait à peu près d'ores et déjà que le taux de ces placements après fiscalité seront beaucoup moins élevés que le taux du livret A ou du LDD. Donc ça pose une vraie question, j'allais dire, macroéconomique de préparation de l'avenir. Mais effectivement, globalement, une bonne... moi, je trouve que le sondage est plutôt encourageant sur la lucidité des Français.
Oui, les Français sont lucides et je trouve finalement apprennent de leur vie quotidienne l'essentiel de l'économie. On a l'impression que c'est avec leur banque, c'est avec l'entreprise, c'est autour d'eux qu'ils apprennent l'essentiel. Et c'est peut-être une chose un peu inquiétante, et je voulais me tourner vers Françoise Moulin-Civil, rectrice de l'Académie de Lyon. On attendrait aussi que l'éducation nationale les prépare. Et quand on regarde les Français, ils disent « Oh oui, on a des connaissances moyennes en économie », c'est la première question. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que plus ils sont diplômés, plus ils pensent que les Français ne sont pas très forts en économie.
Effectivement, avant de rappeler ce que l'éducation nationale fait tout de même en matière d'accès à la culture économique, voilà, je voulais faire un petit commentaire un peu amusé sur les réponses à la première question. C'est vrai que plus on est jeune, plus on est relativement optimiste quant au niveau, à l'appréciation du niveau de connaissance des Français en matière économique. Et c'est vrai que voilà, les plus jeunes des sondés disent clairement que ce niveau de connaissance est élevé ou moyen. Moi, j'y vois un effet quand même du système éducatif qui, tout de même, ces jeunes générations ont été plus exposées que les précédentes à la scolarité généralisée et donc à l'accès quand même à la culture économique. Et c'est vrai qu'à l'inverse, on voit que plus on est vieux et plus on est diplômé, plus on est sceptique quant au niveau de connaissances en matière économique. Alors moi, je crois que ça pose très clairement la question de la démocratisation, n'est-ce pas, de l'accès au savoir, et en l'occurrence, évidemment, au savoir économique. Eh bien, moi, je crois que l'éducation nationale ne reste pas du tout inerte par rapport à ces questions. Je rappellerai d'abord que dans l'architecture même des enseignements qui ont été mis en place dans les dernières années, bien il y a une part non négligeable qui touche de près ou de loin la vie économique. Pour la seule Académie de Lyon, je rappellerai que plus de 12 000 élèves sont concernés par l'économie, à travers en particulier les séries ES et STMG, c'est-à-dire économique et sociale et sciences et techniques du management et de la gestion. Juste deux chiffres pour la rentrée 2012. Si l'on se réfère au total des élèves qui sont en classe de première, 35% de ces élèves de première ont un cursus économique. Et pour les élèves de terminale, 38% de ces élèves ont un cursus économique. On peut ajouter à cela que tous les élèves de seconde, désormais, bénéficient d'un enseignement d'exploration, et en particulier, évidemment, dans le domaine économique. Je ne parle pas ici des cursus du supérieur, qui, évidemment, s'inscrivent très largement dans cela. Il y a évidemment des tas de disciplines qui abordent les matières économiques, outre les sciences économiques et sociales et l'économie-gestion, et là, ça va de soi. Il y a aussi, évidemment, l'histoire-géographie, par exemple, qui concourt dans leur programme à une connaissance des mécanismes économiques. La deuxième chose que je voulais rappeler, elle n'est pas moindre, évidemment, par rapport à la première, c'est que la prise de conscience que l'aptitude à se situer dans un monde où l'économie représente à la fois un enjeu fort et un monde d'insertion sociale, eh bien, vraiment, cette prise de conscience va croissant. Je donnerai deux, trois preuves à l'appui de ce que je viens de dire. La première, c'est que le socle commun de connaissances et de compétences, celle qui figure dans la loi d'orientation pour l'avenir de l'école de 2005, eh bien, tient compte de cela, puisque sur 7 grands domaines de compétences, 2 concernent de près ou de loin la vie économique. Le domaine des compétences sociales et civiques et le domaine qui concerne l'autonomie et l'initiative. Le deuxième exemple que je peux apporter brièvement, c'est que tout ce que fait l'éducation nationale en matière d'orientation et de découverte des métiers et des formations. C'est vrai que nous avons développé depuis une vingtaine d'années des modalités de contact avec le monde économique, qu'il s'agisse évidemment de la mission école-entreprise, qu'il s'agisse de toutes les conventions de partenariat que nous avons pu mettre en place avec la Chambre des métiers, avec le MEDEF, avec la CGPME, excusez-moi. Voilà, je crois qu'on a beaucoup travaillé dans ce sens-là et que nous avons multiplié les partenariats avec le monde économique et que cette orientation telle que nous la concevons aujourd'hui et la connaissance du milieu professionnel sont vraiment à mettre à l'actif de l'éducation nationale. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que l'éducation nationale est évidemment partie prenante dans ces journées de l'économie. Nous les soutenons depuis le début et l'idée qu'il y ait dans la salle quand même des élèves, des étudiants, des enseignants, évidemment des inspecteurs, liés à la matière économique, en apporte une preuve flagrante. Voilà.
Je vous remercie et puis j'espère qu'au fil des sondages, on verra que les Français sont plus optimistes sur leur niveau en économie, s'ils ont accès à des enseignements à tous les niveaux. Par contre, ils sont moins optimistes sur leur information. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la majorité trouve que l'information économique est incompréhensible et j'ai l'impression que lorsqu'ils sont dans la vie économique, ils disent qu'ils auraient peut-être besoin d'être un peu aidés, accompagnés. Je pense que Philippe Griot, président de la CCI de Lyon, serait bien placé pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les Français une fois sortis de l'école.
La première des choses à faire, c'est déjà de participer au GECO. Ce que nous faisons, nous, depuis l'origine de cette manifestation, c'est-à-dire depuis 5 ans. Et on s'en félicite, bien entendu, parce qu'avec Pascal Lemerre, on a réussi, mais surtout lui, un peu nous, à monter une organisation qui est une organisation exceptionnelle, exemplaire, justement, et très rare dans le microcosme et dans le macrocosme économique. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est effectivement un petit clin d'œil, finalement, à l'information économique, puisque si on considère que l'information économique est assez obscure et difficile à appréhender, il faut aussi reconnaître que quand on parle d'économie dans ce pays, en général, c'est pas forcément pour relater les bonnes choses. On parle beaucoup de grands sinistres économiques, on parle beaucoup de la dette, on parle beaucoup de choses qui sont finalement pas très encourageantes pour nos jeunes et futures générations pour se lancer dans ce domaine-là. Donc, nous, par opposition à cela, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler justement sur quelques thèmes qui sont des thèmes importants, et notamment un d'entre eux qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de vouloir à tout prix créer des entreprises. Entreprendre, c'est aussi faire quelque chose de sa vie. Et c'est susciter chez nos jeunes et chez nos futurs citoyens responsables, c'est l'envie de faire quelque chose de leur vie. Et le principe de base que nous avons mis en place à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est justement de démocratiser, de démystifier le rôle de l'économie dans un pays comme le nôtre. Parce que, comme le disait ma voisine, lorsqu'elle a su que j'allais intervenir sur ce sujet, elle m'a dit « l'économie, ça fait peur ». L'économie, ça ne doit pas faire peur du tout. L'économie, c'est un plaisir, c'est une joie. Quand on interviewe les chefs d'entreprise de toute taille, on se rend compte, tout au long de leur existence, qu'ils sont fiers d'avoir fait ce qu'ils font et qu'ils sont effectivement prêts à renouveler l'expérience en créant d'autres entreprises. Et donc, il faut donner à ce côté entrepreneuriat une valorisation et non pas une connotation qui est liée finalement à des fermetures d'usines, à des licenciements, etc. Sachez que globalement, et encore une fois, 90% du tissu économique est constitué d'entreprises de moins de 20 salariés. Donc on est vraiment dans le cœur de l'affaire avec des hommes et des femmes qui prennent des risques au quotidien, qui décident de s'impliquer et qui veulent effectivement faire de leur entreprise un acteur économique puissant au service d'une noble cause qui est la cause nationale. Ça, c'est très important. Alors comment est-ce qu'on peut pratiquer? Moi, je crois qu'on a une chance extraordinaire. Alors c'est effectivement le microcosme lyonnais ou grand lyonnais. C'est une alchimie parfaitement réussie et qu'on doit en permanence entretenir entre quatre éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le domaine économique, c'est celui qu'on représente, donc on va le mettre en premier. Donc effectivement, l'économie est quelque chose de très important pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est les entreprises qui créent des richesses et des hommes, et des valeurs et des emplois, mais il n'y a pas que les entreprises qui ont un rôle important dans l'économie. Le deuxième élément, qui me paraît indispensable et avec lequel on a réussi, nous, ici, à travailler de façon très étroite, c'est le monde des collectivités locales et territoriales, donc le monde politique en général, parce que sans politique, il n'y a pas d'économie, sans économie, il n'y a pas de politique. Le troisième élément, et ça, ça rejoint ce que vous disiez, madame, c'est tout ce qui touche finalement à l'enseignement, à l'université, au monde que vous représentez. On ne peut pas imaginer, ce qui malheureusement existe encore trop dans notre pays, un clivage permanent entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Nous avons besoin de nous impliquer, nous, entrepreneurs, et on est prêts à faire les efforts nécessaires, dans tout ce qui touche à l'enseignement, pour faire en sorte que nous soyons très présents dans les cursus de formation, que nous puissions développer ce que nous avons déjà fait avec nos écoles de commerce, notamment EM Lyon ici sur place, mais pas non plus que EM Lyon, avec Centrale Lyon, avec l'école de la chimie CPE, que nous subventionnons, Chambre de commerce et d'industrie, car encore une fois, ce que nous faisons dans le cadre de l'enseignement va conditionner la qualité de nos futurs collaborateurs. Et on ne peut pas imaginer que ce troisième élément disparaisse du paysage. Et puis le quatrième élément, qui me paraît peut-être encore le plus important, une fois qu'on a traité les trois premiers, qui peut paraître un peu atypique dans la bouche d'un économiste, c'est une dimension citoyenne de la communauté économique et entrepreneuriale. Cette dimension citoyenne, on ne l'a pas suffisamment développée jusqu'à présent. Une chambre de commerce et d'industrie, d'où ici on représente 71 000 entreprises, doit au quotidien travailler avec sa citoyenneté. Et quand on parle de ça, bien on parle effectivement d'insertion dans le monde de la culture, parce que c'est plus facile de valoriser l'image de l'entreprise au travers de la culture qu'au travers du CAC 40. Ça, c'est la première constatation. Le deuxième point, c'est qu'on doit travailler avec le monde associatif, et on le fait beaucoup. Nous étions encore avant-hier dans une remise de trophées sur la diversité. Et c'est des choses que l'entreprise doit au quotidien valoriser. Et puis la dernière chose que nous devons faire également, c'est travailler sur tout ce qui est insertion ou réinsertion des populations en difficulté. Une fois qu'on aura fait cela, je pense qu'on aura réglé une partie du problème, puisque la connaissance économique, lorsqu'on parle d'innovation, n'est pas uniquement ni technologique ni scientifique. Elle est aussi au niveau des comportements. Et je crois qu'on peut largement innover en changeant de mentalité, en faisant en sorte que nous, organisation Chambre de commerce, on puisse donner les éléments à nos entrepreneurs pour rentrer dans ce schéma qui est un schéma d'avenir pour la France.
Merci beaucoup. Je trouve agréable d'avoir tous les partenaires des journées de l'économie qui sont prêts à travailler ensemble, à mutualiser. Ça, je trouve que c'est pour nous très utile. Je suis heureux aussi que Anne Lauvergeon nous ait rejoint. Donc, le grand témoin, vous savez que tous les ans, je souhaite qu'il y ait un grand témoin qui ait une liberté totale de parole quand elle le souhaite. peut-être un peu plus difficile parce qu'on avait commencé un petit peu avant.
Mais vous avez peut-être un témoin partiel.
Vous avez peut-être quelques réflexions sur ces Français, la perception qu'ils ont de l'économie ?
Oui, ce sont des questions difficiles en même temps. Comment jugeriez-vous le niveau de connaissance des Français en économie ? Moi, je serais bien incapable de porter un jugement collectif. On peut répondre sur son propre niveau, qu'on peut juger plus ou moins élevé, mais juger le niveau des Français en général. D'ailleurs, la même question posée sur le niveau en histoire, le niveau en politique, le niveau enfin, en géographie, en Europe. Je pense que ça serait intéressant aussi de mettre... Finalement, dire l'économie, quelle est la place de l'économie dans votre vie ? C'était peut-être ça un tout petit peu plus la question. Moi, ce que vient de dire Philippe Griot, j'adhère totalement. C'est-à-dire que quand on parle d'économie, quand on parle d'entreprise, on parle d'un écosystème. Et on ne peut pas, je dirais que la vision un peu ancienne du système, où chacun était dans son monde et avançait dans sa ligne... je crois que c'est une vision totalement dépassée. Je crois qu'il y a effectivement une interaction forte. Et on ne peut réussir en termes économiques, on ne peut réussir en termes entrepreneurial que s'il y a effectivement cet écosystème qui vous porte et qui vous supporte. Et que vous supportez également, au sens anglo-saxon du terme. Je crois que ce que vous avez énoncé comme effectivement grande ligne et grande interaction, bah, ce sont celles effectivement sur lesquelles on doit continuer à travailler. Moi, je dirais qu'il y a un élément supplémentaire, je rajouterais, c'est la place des salariés dans l'entreprise, la représentation des salariés dans l'entreprise et la vision collective que nous avons, je dirais, du social. Et ça, cette dimension-là, elle est aussi clé, je pense, dans la réussite collective. Alors ça veut dire que ce qu'il faut qu'on essaie de créer autour de ces interactions, c'est un monde de la confiance. Et c'est ça qui nous a aussi manqué, je pense, historiquement, c'est-à-dire le fait de courir chacun dans son couloir a fait qu'on a perdu un tout petit peu de vue le fait qu'il fallait se faire confiance et au contraire, très souvent, une sorte de méfiance s'est installée sur des mondes qui s'ignoraient trop largement. Voilà, mais je laisse la parole, moi je ne suis que témoin.
Créer de la confiance, moi ça me va très très bien, et ne pas courir chacun dans son couloir, je peux vous dire que je passe mon temps à essayer de courir dans tous les couloirs, donc je trouve que c'est deux points qui me vont parfaitement. Jean-Louis Gaillard me regardait en me disant, mais on parle même pas de l'Europe jusque-là, parce que je pense qu'en effet, on a un vrai sujet sur l'Europe. Alors vous inquiétez pas, vous allez voir que dans le programme des Journées de l'économie, l'Europe va être omniprésent. Je pense qu'en effet, c'est un vrai sujet sur lequel les Français doivent pouvoir s'exprimer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Effectivement, renforcer l'intégration européenne, 13%, là, franchement, ça m'inquiète. Autant j'étais très satisfait sur les premières appréciations. Je pense qu'on n'a pas d'autre solution. Il y a toujours un déficit de compréhension vis-à-vis de l'Europe. D'abord parce que l'essentiel de nos échanges se passe en Europe. 70% de nos échanges se passent avec nos voisins européens. Il ne faut jamais l'oublier. Chaque fois que je me rends dans un pays voisin, pour ma génération qui a connu les différentes monnaies, c'est quand même un vrai bonheur de ne pas avoir changé à chaque frontière, à se faire... raqueter sur les frais de change chaque fois que l'on change de pays. Quand on est entre voisins qui se comprennent bien, qui travaillent ensemble, bon, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir une monnaie unique. Alors je sais que le sujet est controversé. Imaginez ce que serait notre continent s'il n'y avait pas eu la construction européenne. Moi, je suis né en 1956, je n'ai jamais connu la guerre. Et je crois qu'on est nombreux à apprécier quand même ce fait-là. On a un peu vite oublié. Mais bon, c'est vrai que l'Europe a un peu dérivé parce que la technocratie bruxelloise existe. Je dirais aussi qu'on a une fâcheuse tendance en France à en surajouter chaque fois qu'on transpose des directives européennes pour les rendre un peu plus complexes et un peu plus douloureuses pour les Français. Et donc, l'Europe, c'est notre horizon. L'horizon 2020, qui est le prochain programme européen, il va investir sur les vrais sujets, bons sujets, pour répondre aux enjeux sociétaux et les défis sociétaux auxquels on doit faire face, sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux de santé, enjeux environnementaux. C'est 80 milliards d'euros qui peuvent être mobilisés à travers l'Europe. On ne les a pas en France. On n'en a pas suffisamment. Et donc, c'est soit on arrive à s'allier, à travailler ensemble sur ces grands enjeux, parce que les autres n'attendront pas. Et ils sont capables de le faire. Les États-Unis sont capables de le faire. La Chine, l'Inde et un certain nombre d'autres pays émergents. enfin dits émergents, parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui, ils ont dépassé ce stade, il y a bien longtemps qu'ils ont dépassé, et si on fait du surplace en imaginant qu'entre nous, en ressemblant à l'Albanie des années 60-70, on va s'en sortir, eh bien on ne s'en sortira pas. Et donc, moi, en tant que politique, je vois des noms, un nom dans la salle, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et notre rôle à nous, c'est de dire, oui, c'est mon point de vue, mais que je tiens à défendre et je le défendrai. Et il se trouve que la région finance chaque année 13 000 bourses pour des jeunes de l'enseignement supérieur pour qu'ils aillent à l'étranger. Chaque fois que j'en croise à Montréal, en Argentine ou ailleurs, c'est un vrai bonheur de voir ces jeunes qui n'ont pas peur d'affronter l'étranger et puis qui vont revenir plein les yeux, plein d'émerveillement et nous rapporter de belles choses pour développer notre pays et faire qu'on se développe correctement. Donc il ne faut pas avoir peur d'affronter la réalité. Et donc moi, je voulais intervenir fortement sur la question de l'Europe.
Offrir des journées de l'économie qui seront un peu plus européennes. Je souhaite qu'avec d'autres villes, on arrive à le faire ensemble. On verra ce que ça peut donner. 53 secondes à Patrick Haas, juste pour nous faire une remarque sur comment ça se fait que les Français estiment l'inflation toujours au-dessus du niveau qui est mesuré.
Oui. Alors effectivement, quand on regarde ce sondage, on a effectivement 48% des Français qui pensent que l'inflation est supérieure à 3%. Ce n'est pas le cas, puisque les dernières données, lors du sondage, on avait une inflation de l'ordre de 1,9. Et dans l'ensemble, on a une inflation qui est tout à fait modérée. Alors je pense que la clé de l'explication, ce n'est pas dans le thermomètre, c'est-à-dire ce n'est pas une critique de l'indice des prix à la consommation. La clé de l'explication, elle est davantage psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, le Français, ce n'est pas pour voir la France, hein, comme l'Européen, il a une mémoire qui est sélective, qui est imprécise et qui est impressionnable. Alors sélectif parce qu'on va retenir davantage les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire notamment les hausses des prix, et donc en fait il y a une surpondération dans notre mémoire des prix qui augmentent par rapport aux prix qui baissent. Ensuite on a une mémoire qui est effectivement imprécise, qui est liée en fait au fait qu'on va oublier les prix des biens durables qu'on a achetés dans le passé, qui sont des prix qui baissent de manière tendancielle. Alors, on oublie que les prix des ordinateurs vont baisser, que les prix des voitures vont baisser, en plus il y a des effets qualité. Et puis, dans son panier d'achat, donc, on va être beaucoup plus sensible donc, à ces effets de pondération des prix qui augmentent plus et aux achats que l'on effectue fréquemment. Voilà quelques éléments d'explication technique. Et juste un dernier mot pour dire qu'en fait, l'euro, contrairement à la légende, n'a pas du tout été inflationniste, puisqu'en fait, le passage à l'euro s'est traduit par une inflation très modérée de l'ordre de plus 0,2% à l'époque.
Merci. J'ai une dernière question, mais on va devoir changer de table, qui est destinée plutôt à Pierre Moscovici, puisque je crois que dans ce sondage, les Français ont aussi une idée sur la dépense publique et les déficits, mais on va devoir bouger, si ce n'est Anne Lauvergeon, qui est condamnée à rester intégralement comme grand témoin avec moi.
Avec vous. Mais alors, je pourrais rajouter que dans tout ce sujet sur l'économie, jamais le mot « industrie » n'est prononcé. Je trouve ça quand même un peu dommage.
Merci à tous.